d'un tango, une danse, un baiser et un sourire.
Par les temps qui courent,
ça y est, puis 21h.
Marie Richaud.
Il y a des figures qui nous ouvrent des portes, justement. Parfois, ces figures, ces êtres ne le savent même pas. Quelque chose a lieu pour nous, sans qu'on le sache.
Faire parler la jeunesse d'une seule voix est une illusion. Une facilité aussi dont usent sans modération des paroles politiques et ou publicitaires. C'est plus long, plus compliqué, plus fin aussi, plus juste peut-être, d'entendre dans ceux que l'on regroupe sous des discutables bannières générationnelles des voix discordantes, diverses et singulières. Cela pèse-t-il moins ou autant ? Le chemin qu'emprunte votre dernier spectacle « Notre innocence » ou « Wajdi Mouahad » part d'une seule voix, puis un chœur à l'unisson, composé de jeunes gens réunis autour du suicide d'une de leurs camarades, puis éclatement des points de vue, ils, elles, disent des choses qu'elles, ils ne sont plus certaines de penser, voient la vertu à un endroit puis à un autre, ne savent pas, ne savent pas, ne savent pas et ne savent pas, et déplorent que la bouilloire soit cassée. Ce qui n'est pas si sûr. Wajdi Mouahad, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être là. Notre innocence, vous y mettez en scène des jeunes gens, sont des étudiants de deux endroits, lesquels ?
Alors, il y a des étudiants, enfin des anciens étudiants, ils ont pour la plupart tous fini leur formation. Donc il y a des anciens élèves du conservatoire de Paris, il y a des anciens comédiens d'une école de Lyon, je crois, l'ESSAD. Il y a des élèves du Québec, de l'École nationale de théâtre du Canada, mais ce sont tous, on va dire, pour être plus juste, et ça c'est très important, mis à part une, ce sont tous des comédiens professionnels qui ont fini leur formation il y a 2 ans, 3 ans et 4 ans pour certains d'entre eux. Donc c'est vraiment important, ce ne sont pas des étudiants, ce sont des comédiens au même titre que n'importe quel comédien.
Alors si je me trompe, c'est peut-être parce qu'ils ont été étudiants à un moment donné, et peut-être avec vous, et que c'est comme ça que vous les avez rencontrés.
Certains d'entre eux, voilà.
D'accord. Et,
sur les 18, il y en a 11 à qui j'avais enseigné dans le cadre de leur formation. Il y a de cela 2 ans, deux ans.
Mais c'est pas voilà. Le cas pour tous, ni
non,
toutes.
Non, c'est ça. C'est même, en fait, l'envie de ne pas travailler uniquement avec des gens que j'avais, à qui j'avais enseigné ou que j'avais connu, que j'ai choisi d'ouvrir. Et les 7 autres comédiens qui se sont rajoutés sont des comédiens avec qui je n'avais jamais travaillé encore, que j'ai découvert sur ce projet. Donc je les avais rencontrés, j'ai été les voir jouer. Pour les choisir, j'ai été les voir jouer, etc. Donc, et c'était la constitution de ce groupe fait de gens avec qui j'avais déjà travaillé, et des gens avec qui je n'avais pas travaillé, qui importait pour moi qu'il y ait, que ce ne soit pas en vase clos, que ces 7 nouveaux comédiens apportent aussi quelque chose de tout à fait nouveau.
Que ce soit pas une classe.
Et que ce soit pas une classe, voilà.
Mais vous les avez réunis avec une sorte de point commun qui serait leur jeunesse dans le métier de comédien ?
Voilà, j'avais envie de travailler avec un groupe nombreux qui a pour particularité de ne pas avoir mon âge et d'avoir à peu près le même âge entre eux. Donc entre 20 et 30 ans, pour être plus précis, entre 22 ans et 30 ans. Et la question que je me suis posée, c'est bon, il y a des choses tout à fait concrètes. Moi, j'ai jamais eu aucun réseau social dans ma vie. Je sais pas comment ça fonctionne. Eux ne fonctionnent que avec ça, et donc ils m'ont appris un peu ce que c'était. J'ai essayé de comprendre un peu quelle était la réalité de qui était la leur, sachant que je me souviens quand même assez de la mienne à leur âge. Je me souviens des outils qui étaient les miens. Qui sont des outils qui ne sont absolument plus du tout les leurs. Un Walkman, par exemple, qui était... moi, je me souviens très bien qu'un Walkman auto-reverse, c'était une grande nouveauté à mon âge, quand moi, j'avais leur âge. Quand j'avais leur âge, le téléphone portable n'existait pas. On n'avait pas ça. Quand j'avais leur âge, j'ai eu mon premier ordinateur, ma première pièce... a été écrite sur ordinateur quand j'avais 26 ans, 27 ans. Les premières pièces que j'ai écrites ont été tapées à la machine à écrire. Donc, du point de vue de l'outil. Et, au-delà de l'outil, maintenant, l'époque. On est séparé par un mur important qui est le 11 septembre et par le mur de Berlin. Ça nous sépare historiquement. Donc, est-ce que ça induit quelque chose ou pas? Et si oui, quoi? Ensuite, le rapport à la sexualité, c'est quelque chose. Enfin, je me suis rendu compte que ce qui relevait du réflexe à mon âge, enfin quand j'avais leur âge, n'est plus tout à fait le même. Et ce qui relève du réflexe chez eux, m'épate, m'étonne.
De quel réflexe?
Ben, par exemple, pour eux, il n'y a pas vraiment. Enfin, je voyais qu'il n'y avait pas de. Les tabous, il y a beaucoup moins de tabous. Beaucoup, beaucoup moins de tabous sur presque la convivialité de la sexualité. C'est presque convivial. Ça n'implique pas faire l'amour avec quelqu'un, n'implique pas un engagement à vie, quoi. Mais pas du tout. Il y a quelque chose comme de l'ordre d'une forme de convivialité. Et ça m'a amené à me poser plein de questions sur ce que, premièrement, moi, je projetais sur eux, ce que je
projette. Mais le E, là, du coup, c'est le E du groupe réuni? D'accord.
Voilà. Alors après, eux-mêmes s'en défendent, hein. Ils ont passé leur temps à dire, nous ne pouvons pas parler au nom de tout le monde. Nous ne parlons qu'à notre propre nom. Et ça a été important parce que la question qui s'est posée, c'est est-ce qu'il est possible de parler au nom de l'autre? Moi, comme auteur, je passe mon temps à faire écrire ceux qui ne peuvent pas parler. Je passe mon temps à donner la parole, d'une certaine manière, à des personnages qui sont, au fond, des personnages qui sont muets, démunis de parole.
Et dont vous dites aussi tout le temps qu'ils ne peuvent plus supporter de se taire.
Voilà. Mais qui n'ont pas les moyens de prendre la parole. Donc, est-ce que vous ne pouvez parler que pour vous? Est-ce que donc aucune parole collective n'est possible pour vous? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que cette phrase, d'accord, c'est ce que toi tu penses, mais bon, bah, je te respecte dans ton opinion. Est-ce que cette phrase, c'est ça l'axe principal? Donc, vous êtes condamné à respecter nécessairement l'opinion de l'autre, donc nécessairement la difficulté d'être, on va dire, pour reprendre la phrase de Camus, solidaire et solitaire, mais solidaire, mais solitaire, mais solidaire, mais solitaire, mais solidaire, mais solitaire. Donc, pour vous, c'est solitaire, pas solidaire. La solidarité, elle est à quel endroit? Est-ce qu'elle est possible? Et où? Et à quel endroit? Donc ça, c'était les questions que je leur ai posées, mais pas comme un piège que je leur tendais, mais plutôt comme une demande d'enseignement. J'ai passé mon temps à leur dire, dites-moi ce que je ne comprends pas. Racontez-moi, qu'est-ce que je ne comprends pas? Ça allait de la technologie, comment ça fonctionne? Par exemple, ils m'expliquent, ils me disent, nous, on a l'embarras du choix. Moi, un des comédiens me dit, par exemple, moi, là, aujourd'hui, j'ai eu 9 événements sur mon réseau social et je ne sais pas lequel choisir. Je ne savais même pas ce que voulait dire ce langage. Et après, quand il me l'explique, il me dit, ben voilà, j'ai des gens que je ne connais pas me disent qu'il y a tel événement qui a l'air excitant à tel endroit, tel autre à tel autre endroit, et j'aurais envie de faire les 9, mais je peux pas faire les 9, donc il faut que je choisisse. Et j'ai toujours l'impression que je passe à côté des. J'aimerais tout faire. Je voudrais être partout.
Mais vous aussi, quand vous aviez 22 ans, vous vouliez être partout?
Alors là, non, pas moi. Non, moi je voulais être uniquement. je voulais être devant ma feuille de papier.
Oui, mais est-ce que être devant votre feuille de papier, c'était pas vouloir être partout? Écrire du théâtre, inventer des personnages et décrire des vies, prolonger le flot de la littérature, se connecter avec la tragédie grecque?
Non. Je me souviens très bien que je m'interrogeais beaucoup devant ma propension à l'exclusion. J'aimais bien m'exclure. J'aimais bien m'exclure de la bande qui était en train de boire un verre et me lever et partir. Et c'est d'ailleurs une des choses que plus tard des amis m'ont dit, t'avais une capacité à t'en aller à des moments où on comprenait pas comment tu faisais, parce que ça avait l'air tellement génial ce qu'on était en train de vivre, et toi tu te levais et tu partais.
Solitaire.
Solitaire, voilà.
Comme eux. Mais,
peut-être pas, non, justement, c'est que c'est pas tant solitaire que appeler.
Si on en revient un instant, je vous coupe, Wajdi Mourad, oui. Sur les questions que vous leur posiez, vous cherchez quoi? En leur demandant, est-ce que vous pouvez être solidaire? Est-ce que vous pouvez parler au nom de quelqu'un d'autre? Est-ce que vous n'êtes seulement maître que de votre propre point de vue et soumis au respect ou à l'irrespect de celui-ci? Vous cherchez une parole de poids? Une parole collective? Quelque chose qui peut faire masse?
Non, je cherchais à ce qu'ils me disent quelque chose qu'ils n'avaient pas déjà dit avant à quelqu'un d'autre. J'avais pendant une bonne semaine, qu'a duré les conversations qu'on a eues ensemble, même plus les deux premières semaines de travail, où 8 heures par jour nous étions assis autour de cette table et où je les questionnais. Pendant longtemps, j'ai eu le sentiment que les réponses qu'ils me donnaient étaient des réponses qu'ils avaient déjà données. Et je voulais autre chose, je voulais qu'ils inventent une réponse devant moi en direct. Je voulais qu'ils pensent en direct, qu'ils réfléchissent là, devant moi. Donc la seule façon que j'avais, c'était de les obliger à aller plus loin dans les réponses qu'ils me faisaient quand je leur posais des questions. Mais pourquoi vous restez pas couché? Pourquoi vous vous levez le matin? Etc. Enfin, quel sens ça a pour vous d'être sur un plateau de théâtre? C'est une question bateau, mais de les pousser ensuite un peu plus loin. J'avais besoin de les entendre inventer une réponse là, en direct, devant moi.
Collective.
Elle devenait collective, du coup. Parce que tout à coup, elle était saisie par les autres. Tout à coup, ça se mettait à être conjugué. C'est comme si on sortait de l'infinitif pour entrer dans la conjugaison. L'infinitif, c'est un verbe qui n'est pas actif. L'infinitif, c'est juste le nom du verbe. Mais pour le conjuguer, pour le mettre actif, il faut le conjuguer. Donc, parler, c'est le verbe. Je parle, c'est l'action. Donc là, tout à coup, lorsqu'il soulevait une question, par exemple, la question de l'héroïsme, du mythologique, quelqu'un, à un moment donné, s'est mis à réfléchir à voix haute là-dessus. C'était débridé, c'était pas construit, mais c'était nouveau. Il n'avait jamais nommé ça avant. Là, ça a été saisi par les autres. Et ça a été débattu. Et tout à coup, j'ai senti que quelque chose s'ouvrait pour eux et pour moi. Et tout à coup, quelque chose se nommait pour nous tous. Il n'y avait plus d'âge. Et là, j'ai eu envie d'écrire. Et parce que pour moi, la question qui se posait, c'était beaucoup la question de la légitimité. Comment moi, qui n'a plus 20 ans, j'allais faire pour leur écrire un texte à eux? Quand je leur ai dit, mais alors écrivez-le, moi je vous donne le théâtre, écrivez-le, écrivez la pièce. Ils disent, mais non, ça c'est pas, on a besoin d'un auteur, on a besoin d'un écrivain, on a besoin de quel, et ça n'a rien à voir avec l'âge. Un auteur va entendre, voilà, donc ça a été ces débats-là qui petit à petit ont amener à tirer un fil, parce que les choses, vous voyez bien, les choses ne se construisent pas par raison. On se dit pas, bon, et maintenant je vais écrire un chœur de 35 minutes, ils vont faire à l'unisson. J'écris un texte et je savais pas à qui le donner. Je savais pas à qui donner ce texte. Donc, on s'est dit, bah, peut-être qu'il faudrait que on le dise tous. J'ai dit, mais c'est très long. Bah, c'est pas grave, on va s'y mettre. Ils ont commencé à travailler le matin. Donc tous les matins, ils se sont rencontrés une heure et ils ont commencé à l'apprendre. Et il y a quelque chose de physique, dans la physicalité, mais dans l'enivrement de parler ensemble à 18 pendant 35 minutes à dire le même texte, qui les a propulsés très concrètement, très physiquement, dans un endroit, je crois que pour eux, c'est ce qu'ils préfèrent faire dans le spectacle. Ça relève d'un fantasme, hein, je crois.
Comment est-ce que la choralité de l'œuvre, la choralité de l'écriture correspond à un effacement du personnage? Alors là, on va vers quelque chose de très différent, puisque dans le chœur, dans l'écriture antique, on a bien les protagonistes peu nombreux, puis le chœur qui commente et qui fait avancer l'action. Dans les textes dont je parle, je pense par exemple à Atteinte à sa vie de Martin Krimp, ou bien à Manque de Sarah Kane, on a une pluralité de voix qui prennent en charge une figure qui est une figure absente. Par exemple, dans Atteinte à sa vie du dramaturge anglais Martin Crimp, on a 17 récits d'un personnage, Anne, qui n'apparaît jamais. Et au fond, la pluralité des voix tourne autour d'une singularité qui ne s'incarne pas. Ce qui, moi, me semble plus intéressant, c'est que la choralité des écritures et des mises en scène correspond à une sorte de besoin de retrouver une tension entre écriture poétique et interrogation politique au détriment de la singularité du personnage, du caractère, de l'incarnation. Et je pense que si autant de metteurs en scène, autant d'auteurs de théâtre vont vers cette forme, c'est peut-être que les singularités psychologiques sont tellement fortement incarnées au cinéma aujourd'hui et dans les séries télévisées que ce dont on a besoin aujourd'hui au théâtre, c'est d'autre chose. C'est de cette tension entre le poétique et le politique. Et je pense que l'écriture chorale prend cela en charge en particulier.
Chacun sa cellule, chacun son territoire de plâtre, son appartement. Et parmi l'infinité de ces appartements, l'un était, il y a une semaine encore, le territoire de plâtre d'une viande qui nous intéresse. Un être humain. Quelqu'un. Ou plutôt quelqu'une. Une fille en chair et en os dans sa boîte en béton. Sa maison. L'immeuble dans lequel s'inscrit ce territoire de plâtre de cette viande qui nous intéresse a été construit pour abriter les ouvriers des anciens quartiers des abattoirs. Car il y avait des abattoirs. C'est un temps déjà lointain. Un temps où les bêtes étaient tuées à coups de gourdin par la main des humains. Un temps où celui qui tuait regardait les yeux vivants de celui qui mourait. C'était avant les robots, avant les machines. Cet appartement-là, donc, de cette fille-là, donc, eut pour premier locataire Maurice Furilieux, boucher aux abattoirs de la Villette. Né en 1887, sa première vache, il la tue à 14 ans, entouré par les maîtres bouchers, dont son père, son oncle et son grand frère. Cette première mise à mort est précédée d'un cérémonial durant lequel l'apprenti sans trembler boit jusqu'à la lie un calice immense rempli à ras bord d'un mélange de sang de taureaux, de chevaux, de veaux et de porcs, dilué ni dans l'eau ni dans l'alcool. Gorgé après gorgé, sous les yeux des bouchers qui font cercle autour de lui, Maurice sent le sang de l'histoire, le lier pour toujours au sang des bêtes, posant par là le geste que ses ancêtres avaient tous posé avant lui. Alors, les lèvres noires rubis, les yeux exorbités, accompagné de son père comme un père accompagne la mariée vers l'autel, on le présente à son animal inaugural.
Une vache aux yeux verts. Wajdi Mouad, c'est un extrait de votre spectacle Notre Innocence. Je parlais de ces différents chapitrages, une voix seule portée par une jeune femme au départ, ensuite ce chœur portant à l'unisson à la fois un récit puis une adresse. On entendait juste avant la voix de Myriam Marzouki parler de la forme de choralité comme une nécessité tendue entre poétique et politique. Alors vous disiez tout à l'heure, les choses se font comme ça. Mais une fois qu'elles se sont faites comme ça et que vous devenez spectateur de ce que vous avez fait, de ce que vous voyez, est-ce que ça vous parle? Le cœur comme une tension entre poétique et politique?
Oui, enfin c'est beau parce que j'ai beaucoup parlé de ça aux acteurs en leur disant il faut faire une forme poétique, mais où le mot poétique que j'utilisais était une contraction entre poésie et éthique. C'est-à-dire, je leur ai dit, c'est un mot qui s'écrit P-O-E-T-H-I-Q-E. Je leur ai dit, ce cœur-là, c'est une poétique en ce sens-là, dans le sens où il y a une éthique entre vous qui est très concrète. S'il y en a un qui se met à parler trop fort, il noie tout. Si quelqu'un triche et ne parle pas, il diminue la force. Vous devez être juste, vous devez être à l'unisson. Donc dans l'écoute les uns des autres, si vous avez plus de puissance que les autres, vous devez accompagner les autres, etc. Donc il y avait vraiment très concrètement dans le travail des nécessités qui créaient société. Et puis c'était une poésie parce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Mais symboliquement même, il n'avait jamais fait ça. Parce que à un moment donné, ils ont tous dit... Il y a des passages dans le cœur qui me touchent profondément, d'autres un peu moins. Et d'autres ont dit, ben moi les passages qui te touchent un peu moins me touchent beaucoup plus que les autres. Alors la première personne a dit à l'autre, eh bien alors je vais lui donner toute la puissance pour toi. Et là il y avait vraiment tout à coup la compréhension que créer une parole en commun, ça ne veut pas dire penser tous la même chose. Ça veut dire aussi penser avec l'autre, pour l'autre,
à côté de l'autre,
etc. Mais ce que je trouve intéressant là, en l'entendant, parce que je l'ai surtout vu, c'est oui, c'est choral, mais ça dure 35 minutes. Hein. Ça serait pas tenable à la radio. C'est-à-dire que la vue du corps, la vue des bouches qui bougent, parce qu'il faut imaginer 18 bouches qui bougent en même temps, la tension des corps des acteurs qui se tendent en vrai,
Leur cage thoracique
qui monte, qui descend, et puis l'épuisement participe aussi à cette choralité-là. Donc, il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que le texte, il y a la présence de l'humain, du corps, du sang, de tout qui est là, de la sueur.
De la baffe pour certains au dernier rang.
Mais oui, voilà, exactement. Et ça, c'est là, on n'entend pas qu'ils sont 18. On entend qu'ils sont plusieurs, et puis même aujourd'hui, on pourrait croire que c'est une voix trafiquée. Là, on pourrait dire que c'est une voix qui a été trafiquée par l'ingénieur du son. Au théâtre, non, on peut pas dire ça. Et au théâtre, même si la salle est grande, si vous faites le focus sur l'un d'entre eux, tout à coup, vous entendez sa voix. Si vous vous mettez à regarder le tout, vous entendez 18 voix. Il y a des et je crois que là le l'art vivant, la présence en vrai du corps qui porte la voix prend aussi tout son sens. Et ça c'est très important pour moi de prendre conscience de ça maintenant là.
Et c'est une partie très forte, elle est scindée en deux, il porte un récit, il parle d'un immeuble, d'un endroit, et comme souvent avec vous, Wajdi Mouad, les lieux ne sont pas neutres, ils ont une histoire, ils transmettent quelque chose, nous y sommes sensibles, les animaux aussi, le sang qui y a coulé, ou dont on a raconté qu'il y a coulé, y coule encore par la force du récit. Première chose qu'il porte, et dans un deuxième temps, il s'adresse à un « vous », qu'on peut ou bien prendre pour soi, ou qu'on peut ou bien déplacer dans une sphère un petit peu plus indéfinie, qui serait un monde, qui serait vous. Vous avez été ceux qui, entre autres, étiez jeunes en 1968. Cette indétermination du vous à laquelle il s'adresse, vous vous en dites quoi? C'est lequel vous pour vous qui l'avez écrit?
Pour ceux à qui le chapeau fait. C'est ce que je leur ai dit parce que, à un moment donné, ils m'ont posé la question de la nuance. Je dis oui, bon. Je dis bon, on fera les nuances plus tard. Là, l'idée, c'est de voir.
De la nuance, si vous voulez dire.
C'est-à-dire, ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui ont été formidables. Moi, j'ai eu un prof.
S'adressant, quand il s'adresse à des générations un peu plus âgées.
Voilà, c'est ça, exactement. Donc, je leur dis, mais je suis tout à fait d'accord. Mais je dis, mais s'il y en a qu'un à qui ça s'adresse vraiment et qu'il est dans la salle, ça vaut la peine de le faire pour ce un-là. Donc, pour qui le chapeau fait? C'est à lui que vous allez vous adresser. Et puis aussi parce que la première pièce que j'ai écrite s'appelle « Willy Protagoras enfermé dans les toilettes » et c'est l'histoire d'un garçon qui dit non. Qui dit non presque pour le plaisir de dire non, pour ressentir ce que c'est que de dire non et de comprendre que la notion de l'éveil de la pensée, l'éveil au monde, passe par une sorte de refus, de rejet, de contestation sur le plan symbolique dans certaines traditions ancestrales, il fallait tuer le père, il fallait passer par un geste. Je pense par exemple à cette série de bande dessinée Les Métabarons de Jodorowsky où le grand rituel, c'est le moment où le fils du métabaron doit affronter le métabaron et le tuer. Il y a quelque chose de l'ordre du geste violent pour venir au monde, pour naître au monde. Il y a ça aussi. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça aussi. Or, ce aussi-là, c'est cette violence-là, cette brutalité-là, qui est au fond, au cœur même de notre naissance, puisqu'il a bien fallu qu'on surgisse du ventre de notre mère dans cette violence-là de la naissance, eh bien, nous vivons à une époque qui, peut-être encore plus qu'avant, ne la supporte plus, la rejette, la refuse. Il devient de plus en plus difficile c'est de ça dont parle le cœur aussi, de porter le mot radicalité, le mot pureté, le mot intégrité deviennent des mots très dangereux. On n'ose plus les prononcer parce qu'ils renvoient à une sphère qui, comme si nous abandonnions l'engagement, la passion, au terrorisme, à l'assassinat, et nous abandonnons ça. Nous l'abandonnons de plus en plus pour se retrouver dans un monde de plus en plus consensuel. Et c'est ce monde-là dans lequel ils grandissent et qu'ils sont en train de devenir, en tout cas les 18 avec lesquels moi j'ai travaillé.
Sauf que vous disiez tout à l'heure, Wajdi Mouad, mon impératif a été de leur faire penser quelque chose au présent et de dire quelque chose qu'ils n'avaient jamais dit. Et c'était ce que vous leur adressiez comme question. Et vous écrivez comme manière de tuer le père ou comme ce un des rituels violents, en plus de ce premier récit d'animaux tués, de bouchers et des abattoirs, vous écrivez une adresse à celui qui porterait le chapeau de la génération ayant fait mai 68 et ayant laissé peu de place pour la suite. Ça a déjà été dit. Donc, j'ai pas eu la sensation que vous vous... En tout cas, j'avais l'impression que vous preniez le lit d'un très gros discours très audible qui serait celui d'une génération qui s'est fait rafler la mise par une autre qui était censée faire la révolution et qui en fait s'en est mis plein les poches. J'ai l'impression que ça c'est quelque chose qu'on a énormément entendu. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas imposé de penser quelque chose pour la première fois sur cette question-là, l'adresse au vous.
Ben alors je me suis pas posé la question dans ce sens-là. Vous avez peut-être tout à fait raison, mais moi j'avais l'impression que j'avais jamais écrit ça encore.
Ça, c'est certain. Bien sûr.
Donc, l'idée, c'est pas d'inventer quelque chose qui n'a jamais été dit.
Moi,
c'est
ce que par
je
vous.
Leur dis. Par vous. Voilà. Parce que je leur dis, c'est, je ne leur ai pas demandé de dire quelque chose qui n'a jamais été dit.
Mais que
je leur ai
dit,
c'est, je leur demandais de dire quelque chose qu'ils comprenaient là, même si ce qu'ils vont comprendre a déjà été compris. Mais il y a aussi autre chose, c'est que, ce qui m'intéressait, c'était pas uniquement ça, c'est le rapport de poupée russe générationnelle que j'ai essayé de mettre en place dans ce spectacle. C'est-à-dire, il y a cette génération qui était jeune au moment où moi je suis né.
1968 pile.
Voilà. Je suis né en 1968, donc il s'adresse, on va dire, à mes parents, plus ou moins, ou à mes grands frères ou mes parents. Et il y a moi qui écris la pièce. Il y a eux qui la portent. Et il y a cette petite fille qui arrive à la fin. Donc, il y a une poupée. J'ai construit le spectacle plutôt à partir de quatre poupées russes qui s'imbriquent l'une dans l'autre et qui sont toutes dépositaires les uns des autres. Donc, il y a vraiment quatre générations. Il n'y en a pas que deux. Il y a ceux à qui on s'adresse, il y a celui qui l'écrit, ceux qui l'apportent et ceux qui viennent après.
Et tous disent « nous sommes là ».
Et tous disent « nous sommes là ». Tous. Et c'est une phrase, elle est clé. Je suis là, je vous vois. Et j'ai la parole. Si vous pouvez le dévorer, si vous voulez manger du cœur, il y en a, c'est le mien, je vous le donne. Voilà, mangez-le. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de dans la dramaturgie que j'ai voulu construire de cette manière-là. Et j'ai voulu, alors, c'était, peut-être que j'aurais pu, mais j'avais plus le temps. Parce que c'était compliqué. Mais, le cœur que eux font à 18, qui dure 35 minutes, et qui commence par le cœur ouvert, le cœur découvert, vous voulez en manger, nous allons vous donner le nôtre à dévorer, tenez. Ça, c'est le début du cœur. Eh bien, c'est exactement ce que dit la petite fille lorsqu'elle apparaît dans le cadre de la porte. Et j'aurais voulu lui faire faire un texte de 35 minutes aussi. Mais pour une comédienne de 9 ans, ça aurait été possible, mais j'aurais eu besoin de 2 mois de plus. Et je crois que formellement, ce qui m'aurait, j'aurais eu le sentiment vraiment là d'avoir été dans une réelle radicalité, c'est si cette petite fille avait fait aussi un cœur de 35 minutes et si j'avais réussi à avoir 18 jeunes comédiens de 9 ans. Là, je crois qu'on aurait entendu, parce qu'il y a ce mur qui n'arrête pas de pousser les chaises et de reculer, comme s'il y avait une sorte de machine qui fait « et au suivant, et au suivant, et au suivant ». D'ailleurs, au début, hein, vous voyez bien, le mur les pousse jusqu'à ce qu'il saute. Il n'y a plus de place, il tombe, et puis bon, ben après, c'est la suivante qui arrive. Donc, il y avait cette espèce de machine du temps que j'ai voulu aussi, au-delà des mots, raconter dans la manœuvre scénographique. Mais tout ça, c'est pas important de comprendre ou de pas comprendre quand on est spectateur. C'est ce qui anime l'écriture interne, hein, dans l'écriture. Mais je raconte ça pour dire qu'il n'y a pas que deux générations et il n'y a pas une accusation d'une génération et une autre. Il y a plutôt comment se déploie la transmission. Est-ce que c'est difficile d'hériter?
Mais justement, cette question de l'héritage, alors, je vais poser la question autrement, parce que vous avez raison de dire que la question n'est pas de savoir si les choses ont déjà été dites, mais si nous les avons déjà dites. Mais donc, la question de l'héritage, pour vous, elle se conjuguait nécessairement avec mai 68? Parce que héritage mai 68 clignote tellement fort dans la sphère de parole que oui. Je conçois que vous, pour vous, c'est la première fois que vous le dites, mais ça veut dire que pour vous, ça s'imposait de cette manière-là.
Il n'y a pas que mai 68, parce que...
Non.
Là, je
mais dans l'adresse, oui. Dans le moment de l'adresse, il y a quelque chose de très fort qui est arrimé à ce « vous-là ».
Oui, ce « vous-là », c'est ce « vous » de cette période-là. Mais le texte commence en 1870.
Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai scindé en deux moments.
Voilà, oui. Mais c'est important, parce qu'il dit, voilà, c'est une histoire longue... Ancienne, il y a eu...
Des guerres.
Il y a eu des guerres, il y a eu des colonies.
Il y a eu des immigrations, voilà. Des installations.
Mais il se trouve que vous êtes nos parents, vous êtes là. Vous êtes là et on s'adresse à vous. S'il y avait la génération de ceux qui ont fait la Première Guerre mondiale, les généraux qui ont fait la Première Guerre mondiale, peut-être on se serait adressé à eux en leur disant « Mais qu'est-ce qui vous a pris d'envoyer comme ça à la boucherie, les soldats les uns après les autres sans réfléchir ?» Peut-être. Mais ils sont plus là. Donc ils sont là et puis c'est à eux qu'on s'adresse. C'est à eux qu'on s'adresse, peut-être, c'est pas tant à mai 68 que à... Peut-être qu'il y a cette idée de la... Alors là, oui, là je rentre dans quelque chose qui relève plutôt de ma pensée à moi, de ce que j'ai pu ressentir moi par rapport à cet avant-là, avant mon âge, avant moi, et où j'ai eu le sentiment que la question de la transmission, c'est-à-dire transmettre, essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est le mur contre lequel je me suis souvent heurté, c'est-à-dire pas de transmission sur la guerre civile libanaise, pas de transmission sur le monde. Enfin, en gros, nous, on disait non, il y a rien à apprendre, voilà, oubli, et puis pas oubli, mais tu te poses trop de questions, la manière avec laquelle on m'a enseigné, la manière avec laquelle on m'a éduqué était tellement comme si on me disait débrouille-toi, enfin, moi je te dis, je t'informe, il y a ça à lire, il y a ça, il n'y a pas vraiment de... Débarrasse-toi de la spiritualité, débarrasse-toi des symboles, profite.
Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner, demande la petite fille, et tout le monde lui répond non.
Oui, c'est ça, voilà.
Mais ça veut dire, voilà, mais c'est-à-dire que Wajdi Mouad, pour peut-être poursuivre ma question, quand vous dites ma pensée à moi, c'est d'avoir buté sur une non-transmission, qu'on ne m'ait pas accompagné sur, par exemple, la guerre du Liban, mais c'est pas ce vous-là que vous me convoquez avec le cœur. C'est un autre vous. Enfin, c'est un vous déguisé en quelqu'un qui a fait mai 68.
Et après, ce que je raconte, non, mais c'est important. Parce que ce que je raconte, c'est vrai. Moi, je venais souvent à Montréal, de Montréal, quand j'habitais à Montréal, je venais souvent en France. Je me souviens de cette manifestation où je suis arrivé, j'étais bloqué, et il y avait une grosse manifestation. Bon. Et c'était pour les retraites. Alors, je me suis mis à marcher aussi, puis ça m'intéressait. À Montréal, il n'y a pas beaucoup de manifestations, je voulais en vivre une. Et je commence à regarder les gens qui étaient là. Évidemment, ce sont tous des gens qui n'étaient pas loin de la retraite. Et là, je fais le lien. Je dis, ah ben tiens, c'est intéressant là. Ce sont probablement ceux qui, je ne sais pas s'ils ont fait mai 68, mais en tout cas, ils avaient 20 ans en 68. Et là, ils manifestent pour leur retraite. Là, ils manifestent pour leur retraite quand même. Je me suis dit, quel glissement. Alors oui, j'ai une sorte de réelle interrogation par rapport à cette trahison-là. Alors non, ce n'est pas qu'un déguisement. C'est aussi peut-être parce que j'ai rarement entendu quelqu'un, un intellectuel de cet âge, se remettre en question par rapport à la transmission de ceux qui aujourd'hui ont 20 ans ou 30 ans. Très peu. Ils sont très sûrs d'eux. Ils sont très très convaincus de ce qu'ils ont fait. Et quand j'ai passé mon temps, enfin ça date pas d'hier, pendant 7 ans j'ai fait un projet qui s'est appelé Avoir 20 ans en 2015, où j'ai accompagné une cinquantaine d'adolescents qui avaient 15 ans en 2010, qui ont eu 20 ans en 2015. Je les ai véritablement accompagnés et une chose qui revenait souvent, c'est ils ne se rendent pas compte de ce qu'on voit. Mes parents ne réalisent pas comment je les regarde. C'est probablement vrai de tout âge, mais quand je leur dis « Mais alors, qu'est-ce que vous voyez ? Dites-moi, vous voyez quoi ?» Et la liste, une fois qu'elle s'établissait, elle était édifiante. Et je me disais « Mais il faut arriver à faire entendre aussi cette chose-là. » Et j'en ai mis beaucoup dans le cœur. Beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a une des phrases qui commence comme ça. « Que croyez-vous que nous nous disons lorsque nous parlons de vous ?» j'ai tenté de nommer ces choses que j'ai pu à la fois observer moi, penser moi-même, ressentir moi-même, mais aussi ce qu'ils ont pu eux me dire, essayer de m'expliquer et de nommer. Je sais pas comment ça se passe le spectacle parce que j'y vais jamais. Je mets pas les pieds pendant les représentations et puis je ne lis strictement rien. Donc je sais rien. Je sais pas du tout comment ça se passe. Mais je sais qu'une fois que le spectacle sera terminé, je vais être curieux de voir comment s'est passé. Je sais que c'est plein. Je sais que c'est plein. On a ajouté une représentation. C'est quand même une salle de 700 places. On a ajouté une représentation supplémentaire. Mais je crois que c'est pas un spectacle qui est unanime comme a pu être Tous des oiseaux. Donc je crois que les gens, c'est plutôt conflictuel. Donc ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment ça se fait que c'est plein, qu'il y a des listes d'attente et qui sont ces gens. Et qui, à partir du moment où le spectacle a commencé à être, en tout cas, avoir sa rumeur, qui a continué à vouloir acheter des billets. Est-ce que l'âge diminue? Les statistiques de ce spectacle m'intéressent grandement parce que je ne crois pas que, en termes de, comment dire, pour parler de façon extrêmement objective, de qualité artistique, je ne crois pas que ça soit un spectacle, comment dire, un chef-d'œuvre ou je sais pas quoi. Et la question n'est pas à cet endroit-là. C'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai fait ce spectacle. Mais
qui réunissez-vous ou de qui titillez-vous la curiosité? Ça vous intéresse?
C'est vraiment, ça m'intéresse vraiment. Parce que, si vous voulez, si petit à petit la jauge avait diminué, si nous avions vendu de moins en moins de billets, je me serais dit, bon, bah, c'est comme ça arrive avec des spectacles qui ne font pas d'unanimité, mettons, petit à petit, il n'y a que ceux que ça intéresse qui viennent. Mais non, ça continue à être vraiment plein. Donc, qui vient et pourquoi? Et est-ce qu'à la fin, l'âge moyen a drastiquement diminué ou pas? Ça, c'est vraiment une statistique que je trouve, mais vraiment objectivement passionnante par rapport à ce spectacle.
Moi qui étais dans la salle, sans vous dévoiler trop de choses, je ne sais pas si c'est une très 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 bonne action de la médiation et de l'action culturelle du Théâtre de la Colline, mais il y avait énormément de très jeunes gens.
Les gouttes de rosée, les gouttes de rosée.
Ben évidemment que je suis pas redevenue petite fille. Sincèrement, est-ce que j'ai une gueule à retomber en enfance? Et mon père, est-ce qu'il a une gueule à venir se faire chier en classe alors qu'il pourrait être si bien au bistrot en train de siroter son pastis? C'est vraiment n'importe quoi.
Victorine, qu'est-ce qui se passe?
Je parle. Les gens y croient n'importe quoi, faut tout leur expliquer.
On dit pas les gens y croivent, merde. Les gens ne peuvent pas croiver. On dit pas quand j'étais petit, je croivais au Père Noël.
Oui, ben moi je le dis. Je croyais pas au Père Noël, mais je croyais à plein d'autres trucs que j'aurais mieux fait de m'abstenir de croire. Et à l'école, par exemple, je croyais que de temps en temps, entre deux dictées à la con, on allait m'apprendre à devenir autre chose que ce que je suis en train de devenir. Que les filles, même dans la banlieue, c'était pas fatal qu'elles aient le sourire qui se transforme en coup de poing. Voilà ce que je croyais, maîtresse. Je vous appelle au secours, maîtresse. Je vous aime bien comme maîtresse.
Temps qui court, Marie Richeux.
Take your partners for the dance, quick before you miss the chance. Make your loving while you can, or she'll find another man who will. Losing someone makes you sad, makes you feel that life is bad.
Confession of Dr. Dream de Kevin Ayers, qui dit que perdre quelqu'un rend fou, rend triste. Et juste avant, un extrait d'Un, deux, trois soleils de Bertrand Blier où Anouk Grimbert fait face caméra et s'adresse à un vous, comme dans Le cœur de notre innocence, et dit que non, elle n'est pas revenue en enfance, mais en même temps oui, et qu'elle croyait beaucoup, beaucoup de choses, notamment à l'école, et que peut-être elle aurait mieux fait de pas croiver. Il se trouve que le personnage de Blier s'appelle Victorine, que le personnage qui est là comme une présence si forte, une présence totem dans votre pièce s'appelle Victoire, et que le texte qui est peut-être lointain maintenant, mais qui a quand même existé, s'appelle Victoire lui aussi, avec un S. Est-ce que votre Victoire dans Notre innocence a quelque chose de la Victorine de Blier ?
Ah oui. Oui, oui, vraiment. Et j'avais oublié qu'elle s'appelait Victorine, c'est marrant. Mais complètement, c'est-à-dire que ce être inconsolable du regard qu'on pouvait avoir enfant sur les choses, c'est-à-dire inconsolable de ne plus avoir ce regard-là sur les choses, sur le... Comment on pouvait, enfant, être hypnotisé par des détails qui pouvaient être dans la rue, la pluie, les choses, comment on était en... comment on avait envie, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, du moins enfant, de faire partie de l'enchantement avec lequel le monde semblait se présenter à nous, qu'on voulait y participer à plein, comme si on se disait « mais c'est exactement à ça ». C'est ça, c'est ça. Moi, j'ai hâte d'être grand pour pouvoir être dans le monde, dans l'enchantement du monde, et que ce regard-là se perd. On ne sait pas exactement pourquoi il se perd. On ne sait pas exactement comment il se perd et comment le retrouver, parce que parce qu'on s'en souvient, on s'en souvient vraiment, on se souvient de notre oncle qui vient nous chercher pour aller faire une promenade la nuit et que tout à coup, le moindre son d'animaux dans le bosquet éveillait en nous une chose tellement précise et tellement construite qu'on ne l'oublie pas et elle nous fonde. Et des années plus tard, on se dit, mais il faut que je retrouve ce regard-là. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le retrouver. On peut le retrouver, mais comment on fait pour le retrouver ? Comment on fait pour ne pas accepter que ce soit perdu à jamais et qu'on rentre dans un discours raisonnable par rapport à cette chose-là. Comment ne refuser de se consoler de cette perte-là? Alors je crois, moi, c'est ce que j'entends quand j'entends, pas seulement dans le texte d'Oublié, mais dans la voix même d'Anouk Greenberg. Même dans sa voix, dans la manière avec laquelle on sent que cette idée la bouleverse, elle, actrice. Il y a ça aussi, il n'y a pas que le texte, il y a aussi le tissu même de la voix de l'acteur qui lui-même est transpercé tout à coup par une remontée profonde d'une enfance enfuie et qui, par la magie du texte, de l'auteur, du regard de l'artiste, fait en sorte que l'acteur devient un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire d'une enfance qu'on pensait disparue. Alors oui, là, il y a vraiment directement un lien avec ce que j'ai essayé de faire. Et puis je pense que même que ce soit dans la littérature, enfin dans la peinture, je me rends compte que ça m'ennuie, ça me fait chier les regards un peu trop sémantiques sur les choses, un tout petit peu analytiques, un tout petit peu scientifiques sur les œuvres d'art. C'est au fond l'aveu. L'aveu d'une incapacité de d'émerveillement qu'on n'a plus lorsqu'on rentre trop dans ces regards-là, lorsque on les met au premier plan et qu'on se dit c'est ça le plus important. Et ce qui est formidable, c'est que chaque fois que l'artiste arrive à poser un geste juste, ça dynamite complètement ça, puisqu'on perd le nord, enfin comme spectateur ou comme lecteur, ou on perd le nord, on sait plus où on est, on voit plus le temps passer, etc. Ouais. Et ça, en tout cas, c'est la question à chaque fois en répétition, comment arriver à construire quelque chose qui peut créer un moment pareil en représentation.
Il y a une enfant qui est à la fois très imaginaire et très présente dans ce spectacle et dont le groupe fait sa force après avoir réalisé qu'elle n'existait pas mais qu'elle avait quand même existé puisqu'il l'avait très fortement imaginée. Elle, cette enfant, elle demande à ce qu'on l'accompagne devant la mort. Elle cherche à ce qu'on l'accompagne devant la mort de sa mère. Et tout le monde lui répond non. Il y a vraiment quelque chose, pour le coup, d'une enfance très, 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 très solitaire, qui cherche à être très, 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 très solidaire, pour reprendre le couple de mots que vous formiez tout à l'heure, Wajdi Mouad, et on lui refuse ça. Ce qui est quand même un regard porté sur, peut-être pas notre innocence, mais la sienne, qui est très dur. Enfin, pas sur son innocence, mais sur le monde dans lequel elle évolue.
Oui, ben, je crois que, j'ai ce sentiment. J'ai des enfants, donc je les regarde beaucoup, et je vois bien que je pourrais pas leur éviter le désarroi, le chagrin, la souffrance, la douleur. Je vais pas pouvoir leur éviter ça, je pourrais pas. Et ils vont devoir l'affronter absolument tout seul. Je me souviens combien je n'ai rien dit à mes parents parce que c'était les dernières personnes à qui je voulais leur parler de ce qui me fracassait, c'était mes parents. Et donc je ne vois pas pourquoi je vais obliger mes enfants à ce que je sois moi. L'aide, le secours, l'accompagnateur, etc., etc. Donc, la mise en scène de cette petite fille qui demande qu'on l'aide et à qui on dit non, pour moi, c'est une manière de raconter, au fond, une chose très simple, c'est que...
Elle demande pas qu'on l'aide, elle demande qu'on l'accompagne.
Tout à fait. C'est que ce chemin, il est vraiment à faire seul, et c'est peut-être une des choses la plus difficile à accepter pour nous. C'est qu'il faut qu'on le fasse. Faut à un moment donné assumer qu'on le fasse seul. Et cette traversée qu'elle fait à la fin de ce voile, il y a des gens qui ont vu la virginité, ou je sais pas très bien quoi, ou le passage à l'âge adulte et tout. Parce qu'en effet, une fois qu'elle traverse et que le rideau se lève, on la retrouve assise sur une chaise avec une musique qui n'est pas de son âge, entre guillemets, et puis, elle a grandi. Eh bien, ce passage-là, même dans le pire des cas, le pire des cas nous fonde, fait de nous les gens que nous allons devenir. La guerre civile, mettons, la guerre civile, la mort, l'exil, la perte, etc. On finit par, d'une, on fait la personne que je suis devenue, et au fond, ce sont mes parents, on pourrait dire d'une certaine manière. Eh bien, ce nom-là est le parent de cette petite fille. Cette fille va se construire, va se fonder par le nom que les quatre personnes qu'elle va rencontrer sur son chemin vont lui dire, et elle va pourtant poursuivre, elle va pourtant continuer, elle va pourtant arriver jusqu'au bout, pour monter sur cette chaise et dire cette chose toute simple qu'elle dit à la fin. Et ce chemin solitaire, peut-être au fond, résume un peu la sensation que j'ai de la vie, c'est-à-dire malgré tout ce que je peux raconter, malgré tout mon optimisme et toute ma conviction et mon désir de faire du théâtre, au fond, il y a ce sentiment que le chemin, on le fait vraiment tout seul.
On est devenu comme ces sachets de thé qui attendent une eau bouillante qui vient pas. La bouilloire est pétée. Son âme s'est envolée. T'as raison. Nous sommes innocents et nous l'avons oublié. Nous sommes pleins de pudeur et nous l'avons oublié. Nous sommes pleins de douceur et nous l'avons oublié. Nous sommes pleins de tendresse et nous l'avons oublié. Nous avons le don de faire revivre les morts, de faire marcher ceux qui n'ont plus rien en dessous des genoux. Et nous ne faisons rien pour sortir de la perversité de la bourgeoisie révolutionnaire. Tabarnak, un gars c'est une queue, une fille c'est un trou. On est devenu ça. Quand tu vois un couple de notre âge, tu te dis jamais, tiens, voilà deux héros qui s'aiment. Non. Tu te dis, tiens, voilà un trou et sa queue. Parce que c'est ça la finalité. La seule qu'on a en tête, que la queue rentre dans le trou. Beau programme. Comment tu veux survivre quand l'héroïsme est une blague? Jamais personne ne parle aux héros que nous sommes. Tu sais, on nous parle comme à des enfants, des incapables. On nous parle, on nous paternalise, puis on nous défait comme des robots, morceau par morceau, pour nous mettre en boîte avec la notice puis la garantie à l'intérieur. On s'est fait ikéatiser toute la gang, tabarnak. Victoire est morte pour ça, que je la comprends. La seule fuite est une défenestration. Sortir de la perversité. Il faut bien qu'entre nous, nous décidions de changer de langage. De s'adresser les uns aux autres comme s'adressaient les uns aux autres les chevaliers de la table ronde. Et avant eux, les grands héros grecs, Christ, c'est vrai! Il y avait notre ange! Achille et Penthésilée n'avaient pas 20 ans! Alexandre le Grand avait déjà conquis l'Inde! Puis nous, au même âge, on prend des photos de nos bites. Puis on attend sagement la police avec des sachets de thé Lipton et une bouilloire pétée.
Je veux pas que tu t'en ailles. Un jour, j'ai mis les bouts, c'était pour te faire peur. Ton rire et le bonheur, emmêlés dans un sac. Je courais à plein souffle, pour que tu me rattrapes. Je n'avais rien compris. Et je veux pas que tu t'en ailles. Tu m'as laissé la bouche et le corps en bataille, et les bras n'ayant plus pour apaiser leur mal qu'à serrer dans leurs poings des promesses.
On termine avec cette chanson de Camille Ardoin qui coupe la parole à l'un de vos comédiens, Wajdi Mouad, qui dit qui dit qu'ils ont oublié qu'ils étaient innocents. Et en fait, ce qui se passe quand même au cours de cette pièce, notre innocence, c'est que tout devient plus compliqué. Et qu'on sait, enfin, on se permet de penser que ce qu'il dit, il le croit pas forcément, ou qu'il le croit pas forcément longtemps, et qu'il va être contredit par quelqu'un d'autre, et que tout devient de plus en plus compliqué. Et que notre innocence, qui paraissait claire et nette comme titre du départ, j'ose espérer que voilà, c'est. Oui, voilà, c'est pas de question. Ça devient plus compliqué.
Oui,
voilà.
Ça devient plus confus. En fait, dans ce titre, dans notre innocence, il y a quelque chose de très mélancolique dans le titre. Elle n'est pas une affirmation. Et c'est quelque chose pour moi qui est très, très, très audible. Je l'entends vraiment très, très fortement. Le spectacle s'appelle notre innocence, comme on pourrait dire. Notre innocence de plus en plus floue, de plus en plus incompréhensible, de plus en plus confuse, dont on peut douter de plus en plus, dont on ne sait même plus de quoi on parle exactement, alors qu'au début, vous l'avez dit, c'était tellement simple, c'est un chœur, tout le monde parlait en même temps, ça dure 35 minutes, c'est fort, c'est puissant, c'est beau, on se demande comment ils ont fait, etc. Et puis petit à petit, ça devient, on ne sait plus de quoi ça parle, et on fait des bribes. Mais je crois qu'il y a cette très grande mélancolie qu'il y a... qui est liée à cette notion d'innocence.
Là, j'aurais bien eu envie de vous lancer sur la question de l'héroïsme, mais je regarde d'un œil gauche inquiet la pendule, parce que évidemment, faire une émission comme celle-ci, aujourd'hui, où la question de l'héroïsme est prononcée à la hauteur d'un lieu de l'État le plus fort, et que notre jeunesse est prononcée par le président de la République, Emmanuel Macron, a des résonances toute singulière avec ce que j'ai pu voir dans notre innocence, mais je crains qu'on manque de temps. Pourtant, il y aurait eu deux, trois résonances, voilà, non? Mon Dieu.
Pour dire vite, je dirais héroïsme et désobéissance vont ensemble dans ce cas, dans le cas, surtout face à la question de l'autorité, face à la question du cadre, de l'ordre, et surtout quand on a 20 ans, c'est-à-dire moi, une des choses les plus importantes qu'on ait pu me dire un jour, c'est « fais ce que tu veux, t'as 20 ans, t'es un héros, n'écoute personne ». Ça, c'est une chose qu'on m'a dit et qui m'a libéré. T'as 20 ans, n'écoute personne, t'es un héros. Je crois que là, il y a quelque chose qui aurait été peut-être un sujet de conversation très passionnant.
Allez, à suivre. Merci beaucoup, en tout cas, Wajdi Mouad. Par les temps qui courent, à côté de qui penser?
Un arbre.
Par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait bien rigoler?
Les jeux de mots les plus nuls.
Et par les temps qui courent, qu'est-ce qui vous fait pas rigoler? Du tout.
Les hommes de principe.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h sur France Culture, sur franceculture.fr quand vous voulez, ou en podcast encore plus quand vous voulez. Au son, ce soir, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Lise-Marie Barré, Jeanne Aléos, Oriane Delacroix et Romain de Becdelièvre m'aident à penser cette émission. À côté d'eux, quoi. Quant à moi, je réponds @MarieRicheux sur Twitter.